Les politiques sont-ils des bêtes de scène ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans la compétition que se livrent les chaînes de télévision cette année présidentielle, M6 a déjà remporté la première manche. L'émission Ambition Intime, mise à l'antenne il y a un mois, est non seulement un succès d'audience, mais en plus, c'est le programme dont tout le monde parle. On y voit des personnalités politiques raconter leurs blessures d'enfance à une animatrice de télé-réalité, le tout dans l'intimité d'un appartement factice. La plupart des concurrents à l'élection de 2017 ont accepté de jouer le jeu. Car c'est bien d'un jeu dont il s'agit, sous couvert de confession-vérité. Côté participant, l'idée est de montrer la vraie facette du personnage derrière la carapace du politique. Côté animatrice, l'objectif, dit-elle, est de ramener à la politique des gens qui sont dans une défiance totale à l'égard de nos élites. Alors les critiques n'ont pas manqué depuis le lancement de ce programme, accusé de privilégier la forme au détriment du fond, de jouer sur les ressorts de la séduction plutôt que sur ceux de la conviction. Mais l'un et l'autre ne sont-ils pas indispensables et indissociables à la communication politique, ce qui suppose de mettre en scène et le personnage et les idées qu'il porte? Mais jusqu'où pousser cette mise en scène sans tomber dans le pur spectacle? Alors les politiques sont-ils des bêtes de scène? C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités, à commencer par vous, Danielle Simonet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice du Parti de Gauche, conseillère de Paris, élue dans le 20e arrondissement et désormais comédienne, puisque vous montez sur scène régulièrement pour un one-woman show ou une conférence gesticulée, on l'appellera comme on veut. Ça s'appelle Hubert, les salauds et mes ovaires. Vous l'avez joué notamment au Théâtre Clavel à Paris, avant de partir en tournée en France, dans quelques villes. On donnera les dates à la fin de cette émission. Et on va évidemment avoir l'occasion d'expliquer, enfin surtout vous, les raisons qui ont fait que vous êtes dit à un moment donné, tiens, je vais monter sur scène pour parler de politique, car c'est un spectacle politique. Pour discuter avec vous, Serge Moati, bonsoir.
Bonsoir.
Réalisateur, journaliste, de nombreux documentaires, des téléfilms. Le dernier, me semble-t-il, en tout cas un des derniers qui a été diffusé sur Arte au mois de mars dernier, c'était France, état d'urgence, ah oui, vu de l'intérieur. Voilà, vous aviez suivi Bernard Cazeneuve pendant plusieurs semaines, et notamment au moment des attentats du mois de novembre. Vous avez animé l'émission de débat politique Riposte sur France 5 pendant une dizaine d'années, puis on vous doit également la mise en scène, ou en tout cas une partie de la mise en scène et de la cérémonie du Panthéon en 1981 avec François Mitterrand, et une partie de la mise en scène du débat de l'entre-deux-tours de 1981 où François Mitterrand était opposé à Valéry Giscard d'Estaing. Et puis notre troisième invité est historien, c'est Christian Delporte, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, vous dirigez la revue Le Temps des médias, vous êtes spécialiste de communication politique et entre autres ouvrages, vous avez publié chez Flammarion Une histoire de la séduction politique et les grands débats politiques, ces émissions qui ont fait l'opinion, des ouvrages qu'on peut trouver aujourd'hui en format poche. Alors, vous serez d'accord, je l'espère. De manière, vous n'avez pas le choix pour qu'on commence avec Danielle Simonet. Et donc, ce spectacle, Danielle Simonet, Hubert, les salauds et mes ovaires. Question un peu bateau pour commencer, mais enfin, je ne vois pas très bien comment commencer autrement. Comment ça vous est venu, cette idée de faire un spectacle, de monter sur scène pour défendre vos idées? Alors, en l'occurrence, c'est défendre une certaine idée, on va dire, du droit du travail et du pacte social tel qu'il a été créé par le Conseil national de la Résistance.
Bah, c'est vrai qu'en soutenant la lutte des taxis, j'ai été amenée à découvrir et à vraiment prendre conscience de toute l'ubérisation de la société qui vise à imposer un modèle du travailleur sans droit, une optimisation fiscale, et en même temps qui peut conduire à casser un acquis du Conseil national de la Résistance, hein, la sécurité sociale, la protection sociale, c'est extrêmement grave. J'avais envie de la raconter, cette histoire, parce que je suis vraiment intimement convaincue que c'est par l'humain, par l'émotion, qu'on peut éveiller les consciences. Mais c'est vrai qu'au point de départ, j'avais commencé à vouloir écrire un livre en me disant, cette fois-ci, je ferai un livre avec un fil conducteur différent, qui est vraiment raconter toutes les anecdotes de cette lutte. Et puis, j'avais déjà vu, moi, la conférence gesticulée, enfin, une des premières conférences gesticulées de Franck Lepage. Je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas les conférences gesticulées Franck Lepage, eh bien, d'aller le découvrir sur Internet. Et c'est Il se trouve qu'une camarade du parti de gauche avait déjà participé à ces formations, avait déjà fait une conférence gesticulée, Tiphaine Ducharne, et m'a embarquée de force dans un stage pour, à mon tour, faire une conférence gesticulée. Ça s'est fait très rapidement pendant l'été. Et j'ai joué cette première conférence gesticulée devant mes camarades du parti de gauche à notre remue-ménage estival. Et j'ai pu finalement ressentir à quel point moi-même ça m'avait émancipé de passer par cet exercice où finalement vous construisez votre spectacle sur scène. Vous vous mettez à nu, vous vous mettez en danger. Vous parlez, y compris de vous, parce que j'ai tout un fil féministe où, à coup d'anecdote, je montre que c'est loin d'être simple d'être une femme en politique, y compris en France, y compris à notre époque.
Vous parlez de votre enfance.
Exactement,
aussi.
Exactement, je parle aussi un peu de mon enfance. Et finalement, en cassant complètement les codes, moi-même je m'émancipe et je vois à quel point ma volonté de convaincre est d'autant plus forte. Et là, on m'a dit, mais écoutez, Daniel, il faut que tu joues sur scène, quoi. Et tout s'est enchaîné. On m'a trouvé un théâtre, j'ai rencontré... Papy, Alain Degois, qui est un metteur en scène extraordinaire, qui avait participé à l'aventure des clics à Trappes et qui avait fait notamment l'émergence de Jamel Debbouze et bien d'autres.
Alors, je ne prétends pas du tout être sur ce registre-là.
Je me vois pas comme une artiste. Je suis une dirigeante politique qui essaye de casser ces codes-là et qui, par le théâtre, par l'humour, l'émotion, propose une soirée plaisante, mais qui fait réfléchir et qui essaye d'inviter à redonner du sens.
En tout cas, je dois dire que c'est assez gonflé de la part d'une
élue. Voilà, c'est ça le sens des ovaires. J'en avais ras-le-bol, excusez-moi, je vais dire un gros mot à l'instant présent, qu'on me dise à chaque fois « Ah, Madame Simonet, elle a des grosses couilles ». Et donc, c'était un bon compliment, mais qui montrait bien la domination patriarcale. Donc, j'ai un credo qui est celui de dire « Non, j'ai des ovaires peut-être balèzes, mais voilà ».
Voilà, ça c'est un extrait du spectacle voilà, que vous avez en exclusivité. Serge Moati, parmi tous les politiques que vous avez, vous, côtoyé pendant votre carrière de réalisateur et de journaliste, est-ce qu'il y en a que vous auriez vu justement avoir ce courage de monter sur scène, ou bien est-ce que c'est une initiative qui vous paraît relativement inédite, disons, au moins dans le personnel politique français ?
C'est totalement inédit. C'est vraiment, enfin, c'est la première fois que j'entends raconter ça. Et ça me plaît bien. Ou alors, ils ont des scènes imaginaires. Ils inventent des scènes devant eux qui n'existent pas. Et je pense que la caméra, parfois, leur sert de scène. En tout cas, moi, ce que j'ai fait avec Mitterrand, par exemple, il y a très longtemps, hein, puisqu'il détestait la caméra. Bon, il fallait l'apprivoiser, cette caméra. Il fallait dire, mais non, ça fait pas si peur que ça. Il appelait ça cet œil noir qui me regarde. Comme ça. Calme. Cet œil noir, il y a peut-être des jeunes femmes derrière, on ne sait jamais. Enfin, on peut peut-être les séduire. On ne sait pas. Donc, il faut leur inventer un espace imaginaire de comédie. Mais monter sur scène, comme l'a fait Daniel, non, ça c'est la première fois que j'entends ça. Je trouve que c'est pas tant.
Christian Delporte, c'est inédit, vous qui êtes un historien de la communication politique, au moins en France, parce que, bon, on sait que dans d'autres pays, alors on pense notamment aux États-Unis, où il y a des acteurs qui sont devenus soit des présidents, Ronald Reagan, soit des personnalités politiques importantes comme Arnold Schwarzenegger.
Mais en France. À ce moment-là, précisément, ils ne jouent plus. Ils sont passés de l'autre côté. Ils sont passés du côté du politique. Nous, en France, franchement, je ne vois pas d'équivalent. Non.
Pas d'équivalent. Vous êtes inspiré de qui ou de quel comédien, alors peut-être justement Daniel Simonet pour franchir ce pas.
Ah, je pense pas que je me sois inspiré de qui que ce soit, ou alors si certainement de Franck Lepage, puisque j'ai suivi cette formation. Donc, je me suis rendu compte, moi, quand j'étais petite, j'étais passionnée de politique. Je participais à des débats au collège, mais par contre, devant mon poste de télévision, les débats politiques, bien souvent, m'insupportaient. Par contre, j'adorais écouter Guy Bedos. De toute façon, j'avais pas le choix. Hein. interdiction de parler pendant le repas à table s'il y avait Guy Bedos à la télé. Et je me dis, mais si c'est par l'humour, qu'à un moment donné aussi ma conscience politique s'est forgée par l'humour, ou par aussi des musiques, par du Renaud, par du Léo Ferré, par d'autres, pourquoi est-ce que moi, maintenant que je suis politique, je devrais avoir la même novlangue, langue de bois de tout le monde? Alors c'est pas moi. Finalement, je monte sur scène, mais je joue sans jouer. Voilà, des fois, bien sûr, je force le trait pour y mettre de l'humour, pour y mettre, mais pour aussi transmettre toute l'émotion qu'à un moment donné, cette colère et cette volonté Bah oui, de changer le cours de l'histoire et d'inviter celles et ceux qui viennent à prendre conscience qu'on peut ensemble changer le cours de l'histoire. Bah, je pense qu'il faut ça a plus de poids quand on le fait en assumant justement de casser tous les codes. Alors je le
peut-être
fais
que théâtre, si,
je le fais aussi dans d'autres avec d'autres outils.
Serge Moati,
enfin, allez-y. Vous savez, je crois qu'on fait tout à l'envers là, parce que les comédiens ne jouent pas. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Les comédiens ne jouent pas. On les met dans une situation où ils transfèrent ce qu'ils ont à dire en forme de jeu. Mais c'est, ils ne jouent pas un comédien. Quand vous dirigez un comédien, là je viens de finir un film avec des comédiens, il est évident que je leur dis pas psychologiquement tu penses que, donc c'est pour ça que tu dis ça, et puis tu te mets dans la peau de... C'est pas vrai, c'est quelqu'un qui entre dans leur peau. C'est très différent, il n'y a pas de personnage. Qui... Et je pense que c'est une très fausse approche que de dire que les comédiens jouent.
Alors justement, vous avez réalisé des...
Je sais pas si je suis clair.
Oui, c'est très clair, non, Serge Moati. Vous avez réalisé des fictions, justement, qui racontaient des itinéraires politiques, notamment Mitterrand pendant les années à Vichy, De Gaulle et l'Algérie. Des docufictions, où à chaque fois, vous avez fait appel justement à de vrais comédiens, dirais-je. Est-ce que ça a traversé l'esprit de dire, tiens, pourquoi je ne demanderais pas à des politiques de jouer des rôles de politique, finalement?
Parce que dire
c'est peut-être ceux qui seraient
le
mieux
faire. Ils
le
font sur scène tout le temps. Pendant les meetings, ils le font tout le temps. Il n'y a pas besoin. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand ils inventent la scène, ils la jouent la scène, ils l'inventent, ils la recréent devant eux. C'est comme si elle était là. Donc ils n'ont pas besoin d'une vraie scène comme Daniel. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en train de jouer. Ils le savent, en plus.
Christian Delporte, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, à la réserve près, quand même, qu'il y a le décor, il y a le décorum, il y a la mise en scène de la scène. On le voit très bien dans les meetings. Les meetings, autrefois, étaient faits pour ceux qui venaient voir l'homme politique. Aujourd'hui, le meeting est fait pour la télévision, y compris on fournit aux télévisions des produits clés en main, avec des images impeccables, une lumière impeccable, des plans très, très différents.
Oui, mais la façon qu'ils ont de regarder des gens dans la salle, toujours. Regardez qui ils regardent. Ils regardent un public et des spectateurs. Et ça, c'est très, très important. Ils séduisent quelqu'un dans la salle. Toujours, toujours, toujours.
Oui, bien sûr.
Moi, j'adore les filmer en train de regarder qui ils regardent. Et ça, c'est très étonnant parce que c'est toujours la même chose que les acteurs quand ils jouent sur scène au théâtre. Toujours, 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 toujours.
Christian Delporte ?
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qu'il faut bien expliquer quand même, c'est que est-ce que les politiques sont des bêtes de scène ? Il faut juste préciser que ça n'est pas complètement nouveau. Déjà, Lincoln disait quand on veut passionner les foules, il faut parler à leurs yeux.
Bien sûr.
Et c'est propre aux politiques qu'il y a une théâtralité. D'ailleurs, regardez le vocabulaire classique de la vie politique. On parle d'acteurs politiques, on parle de scène politique, de décor politique, de dénouement d'une affaire politique.
Il y a des performances même qui sont des performances scéniques. Alors on a beaucoup parlé il y a quelques mois de cela, c'était il y a un an je crois, de la chemise mouillée de Manuel Valls lors des universités d'été du PS à La Rochelle, où on voyait qu'il avait tellement donné de lui-même, comme peut le faire par exemple un chanteur.
Moi ce que j'adore, c'est quand ils ont le trac, et ils ont le trac très souvent, et les moments où ils ont le trac, c'est-à-dire soit les moments au maquillage, avant que ça commence, je parle télé là, avant que ça commence, le trac formidable, qui ressemble singulièrement au trac des comédiens. C'est le même, c'est le même, c'est le même. Alors là, moi qui étais vaguement conseillé comme ça, on les met dans un certain climat. On leur parle surtout pas de ce qu'ils vont faire tout de suite là. On leur parle pas de ça, on leur parle d'autre chose, d'autre chose, d'autre chose. On les met dans un truc exactement comme avec les comédiens, ce qu'on appelle bêtement la direction d'acteur qui n'existe pas non plus. Il n'y a pas de direction d'acteur, il n'y a que des mises en climat d'acteurs. Et là, ça ressemble vachement. C'est-à-dire, le trac, c'est la peur qu'ont les comédiens. Pas, vous voyez, beau lapsus. La peur qu'ont les acteurs. Ah non, la peur
qu'ont les politiques. Vous le faites exprès, j'ai bien vu. Oui, Daniel Simonet, vous qui pratiquez le double exercice, qui est celui alors d'aller dans les médias, notamment la télévision, hein, on vous y retrouve assez souvent. Vous expliquez même d'ailleurs dans le spectacle que souvent, on vous offre la facilité d'y aller ou d'en repartir en taxi et que ce sont parfois des VTC.
Oui,
pas toujours des compagnies.
Plus souvent d'ailleurs.
Pas toujours des compagnies officielles. Mais vous qui pratiquez ce double exercice, donc à la fois de participer
soirée,
à des émissions
matinale,
de télévision et d'aller sur scène, oui. Est-ce que pour vous, c'est à peu près ça participe du même exercice pour
non.
vous ou bien c'est radicalement différent
Oui et non. C'est-à-dire que Ça participe pas du même exercice parce que tout lieu est codifié. Après, pour moi, il y a un même travail qui est à faire, qui est d'assumer, et je pense que j'ai encore à travailler dessus, d'assumer que quand on va à la télé, je dois aussi assumer de casser les codes attendus. Et parce que je pense qu'il faut que je réussisse à avoir la sincérité et être moi-même dans tous les cadres. C'est-à-dire que je fasse une petite vidéo au fond de mon lit le dimanche matin pour interpeller Hidalgo et dénoncer le travail du dimanche comme je l'ai faite, ou que j'aille sur une chaîne d'information en continu, commenter l'actualité, ou que j'aille sur scène, il faudrait que ce soit que j'arrive à incarner la même personne. Et donc à sortir des attentes codifiées du système et qui du coup transforment notre propos. Et c'est pas si simple. Par exemple, dernièrement, j'ai été invitée à Paris Première, à la revue de presse. Et ben j'avais une angoisse terrible parce que là, tout d'un coup, je ne savais pas dans quel environnement j'allais. Vous aviez des humoristes qui étaient là. J'étais invitée aussi avec mon spectacle. Et là, tout d'un coup, j'avais un espèce de... Alors, paraît-il que ça ne s'est pas vu, mais c'est pas évident de savoir. Je ne suis pas une humoriste. Et c'était difficile d'assumer d'être soi-même. Mais on est aussi... Et moi, ce qui me semble important de comprendre, c'est qu'on est dans une société du spectacle. Moi, ça a été un des premiers livres, Guy Debord, que j'ai lu à l'université, qui cherche à nous divertir, à nous faire dévier du sens. Et donc notre rôle à nous, c'est y compris assumer le côté spectacle politique pour ramener au sens, Christian, et non pas pour s'en détourner.
Christian Delporte, est-ce que les politiques aujourd'hui assument le fait de participer à une forme de spectacle, ou bien est-ce qu'on n'est pas davantage dans une forme de déni qui consiste à dire justement non, je ne suis absolument pas dans le spectacle, puisque ce que je montre à voir, c'est ce que je suis véritablement au plus profond de mon être.
Effectivement, c'est ça la question. Vous n'avez pas un politique qui va vous dire d'abord j'essaye de séduire, il va vous dire j'essaye d'abord de convaincre. Or, tous les politiques commencent par séduire, sinon on ne les écoute pas. Sinon on ne les écoute pas.
Mais moi, j'ai appris comme ça de l'éducation populaire. Ce qui est important, c'est justement d'abord de créer une rencontre. Et il y a un vrai travail à faire justement pour casser les vieux codes militants. Normalement, le vieux code militant, c'est vous arrivez avec votre discours, vous avez votre tract, et puis comme si vous aviez un entonnoir, il fallait gaver la personne comme un militant d'une secte. Voilà. Or, il faut changer totalement le paradigme et essayer de construire une relation. C'est pour ça qu'on utilise, nous, par exemple, des méthodes de porteurs de parole, pour d'abord construire une relation avec une phrase qui interpelle, pour créer d'abord l'échange, et c'est par l'échange qu'on co-construit de la conscience et qu'ensuite on en arrive à la raison et à la conviction. Bonjour.
Bonjour Karine.
Bienvenue presque chez vous.
J'ai toujours voulu prouver, longtemps dans ma vie, assez stupidement d'ailleurs, j'ai défoncé des portes qui étaient ouvertes.
À l'époque, deuxième surnom, vous appelez le dingue du Palais Bourbon.
Oui, je vois pas en quoi.
C'est quoi cette réputation de grosse fêtarde que vous avez?
C'est une réputation qui est un peu usurpée, oui. En fait, il y en avait trois des filles de peine.
Vous êtes encore très touché.
Oui, parce que je pense que...
Voilà, extrait de la bande-annonce de cette émission qui fait tant parler depuis quelques semaines. Ambition intime, diffusée sur M6, présentée par Karine Lemarchand. Les uns et les autres, est-ce que d'abord c'est une émission que vous avez regardée? Et si oui, ce que vous en avez pensé? Je commence par vous, Christian Delporte.
Oui, j'ai vu en tout cas les premiers volets. J'ai trouvé ça... ce qui m'a surtout surpris, c'est l'aspect complaisant des questions posées, cette complicité avec l'homme politique qui me faisait, d'une certaine manière, regretter que ce ne soit pas un journaliste qui les interroge.
Vous avez trouvé ça nouveau? Vous avez trouvé ça, finalement, une vieille recette éculée? Parce que moi, je me souviens, alors quand j'étais un petit peu plus jeune, de Questions à domicile, qui était une émission qui était présentée par Anne Sinclair, où là, justement, Anne Sinclair allait interviewer les personnalités politiques chez elle. Mmh. Alors là, on est dans un appartement qui n'est pas l'appartement de ces personnalités, mais enfin, finalement, on n'était pas si loin que ça. Alors, certes, Anne Sinclair était une journaliste politique.
Non, mais évidemment, il y avait cet aspect-là. Donc, on est dans la cuisine des hommes politiques. On voyait la femme, les enfants, etc. Mais pour autant, le cœur du questionnaire à l'homme politique, c'était de la politique. Donc c'était un premier pas, mais ça n'était qu'un pas. On peut remonter beaucoup plus loin. Je me souviens d'une émission avec Georges Pompidou en 1970, où avec Pierre Desgroupes, où on le voit dans sa maison de campagne, jouant avec ses petits-enfants, se promenant avec sa femme. En 75, il y a cette émission de Thierry de Sitivaux avec Giscard, où on est un peu dans le même ton. Je veux dire, cette pipolisation des hommes politiques, à la télévision en tout cas, ça n'est pas nouveau.
Voir les hommes ou les femmes politiques, Serge Moati, dans leur intimité, dans une forme de proximité, ça n'est pas quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire ça n'éclaire pas le discours politique ?
Ça dépend de quoi on parle. Là, moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette émission, c'est le sex-appeal de la fille. Je trouve qu'elle a des jambes absolument splendides. Et une façon de s'habiller, de se mettre sur le canapé, là, donc les jambes croisées, recroisées sur elle-même, je sais pas comment on dit ça, vers elle, quoi. C'est complètement sexy. Moi, elle me ferait dire n'importe quoi. Elle me ferait raconter la Bible ou le Coran.
C'est complètement sexy. C'est un peu sexiste, hein, du coup, ce que vous en dites.
Mais c'est terrible. C'est fait pour ça.
C'est terrible si ce que vous retenez,
bah oui,
c'est ça.
Je retiens ça, bien sûr. En plus, elle te fait parler de quoi? Elle te fait parler de tes parents, des trucs comme ça, etc. Moi, il suffirait qu'elle me mette 5 secondes devant elle, elle me fait parler de mes parents, je me mets à pleurer. Enfin, c'est évident, je me mets à pleurer. Et un homme politique, c'est pas un homme différent des autres hommes. Enfin, c'est la même chose. Je suis pas sûr qu'une femme serait dans la même situation qu'elle, qu'un homme.
Pleuré.
Oui, bon, ben voilà.
Moi, j'ai, parce que...
Vous avez pleuré? Vous avez pleuré
à quel moment? Non, c'est que... l'équipe de Karine Le Marchand, on a été quelques-uns à être, du coup, conviés et à être filmés, même s'il n'en ressort qu'une petite phrase à un moment donné.
Pour la participation de Jean-Luc Mélenchon.
Pour la participation de Jean-Luc Mélenchon.
Faut préciser quand même.
L'entretien a duré, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça a duré 2 heures, mais j'en ai aucune idée. L'entretien a commencé sans que je prenne conscience que l'entretien avait commencé. Ouais. On ne voyait pas la caméra. Et c'est vrai que, à un moment donné, on parlait de choses fortes, hein, puisque dans une vie militante, il y a ceux qui restent, puis il y a ceux qui nous quittent. Et donc, à un moment donné, on abordait un camarade qui était extrêmement important pour Jean-Luc Mélenchon et moi-même, et qui est décédé. Et j'en ai pleuré. Donc, relation qui est mise en place est une relation de complicité extrêmement forte, qui fait que les personnes vont dévoiler ce qu'elles sont. Mais là où je rejoins ce que vous avez dit, Monsieur Delporte, c'est que ce qui me met mal à l'aise, c'est que la complaisance dans la relation de la journaliste, finalement, va permettre de rendre sympathique toutes ces personnalités politiques. Et donc, vous avez tout d'un coup une Madame Le Pen, qui pour moi incarne un danger de cette extrême droite qui veut conquérir le pouvoir et qui veut diviser le peuple et nous amener dans une très grande régression, qui devient sympathique. Or, je pense que tout travail de journaliste n'existe pas sans intention.
Mais ça n'a jamais été votre intention, par exemple à vous, Serge Moati, de rendre sympathiques certains hommes ou certaines femmes politiques,
c'est
soit
pas
à travers...
de les rendre sympathiques, c'est s'ils sont sympathiques. Je ne vais pas cacher le fait qu'ils sont sympathiques.
Bah, par exemple, vous aviez expliqué dans un précédent ouvrage que Jean-Marie Le Pen est quelqu'un de sympathique. Ouais. Est-ce que vous auriez imaginé, justement, Jean-Marie Le Pen dans cette émission
Ambition
Non, bah, je ne sais pas, je ne vous vois pas là. Je ne vois que votre buste.
Ouais.
Non, mais en tout cas, voilà, ce personnage-là, puisque vous le considérez comme sympathique,
j'ai toujours dit que je combattais ses idées. Ouais. Mais dans la vie, c'est un homme sympathique. Et alors, quoi? Le diable, ça n'existe pas. Le diable, il n'y a pas le diable. En politique, il y a des gens qu'il faut combattre. Ça n'a pas de rapport. Il y a eu une sorte de camarilla absurde qui a fait qu'on a fait que faire monter les Le Pen. Comme ça. Genre, ce sont des diables, il ne faut pas parler avec eux, il ne faut pas les voir, il ne faut pas les parler. Ça n'a fait que les faire monter. C'est absurde. Donc oui, moi je reconnais que je trouve Le Pen sympathique dans la vie. Ça veut dire que avec lui, vous déjeunez avec lui par exemple, vous vous marrez, contrairement à plein d'hommes politiques à qui on ne se marre pas du tout.
Alors justement, Christian Delporte, est-ce que ça n'oblige pas à faire vraiment la distinction entre des émissions qui sont véritablement des émissions où il y a des idées politiques qui sont abordées et une émission comme celle-là, qui est une émission people, mais comme on peut trouver des choses finalement dans la presse écrite, sauf que là, c'est peut-être ce qui change, c'est que c'est à la télévision, c'est exclusivement...
Ce qui change surtout, c'est que c'est pas le même public. Donc si les hommes politiques font ce genre d'émission pour essayer de se rendre sympathique, c'est pour toucher un public, c'est pour ça également qu'ils font des émissions d'infotainment, c'est pour toucher un public qui, lui, ne regarde pas régulièrement les émissions politiques ou qui ne sont pas déjà convaincus. Donc on va les chercher dans les niches. Et ça, c'est une forme de niche. Le problème, c'est que les hommes politiques veulent absolument se rendre sympathiques. On sait qu'il y a deux éléments qui jouent dans la détermination du vote. La compétence et la sympathie qu'on peut éprouver pour l'homme politique. Et les Français, considérant qu'ils ne sont pas compétents, qu'est-ce qu'il reste ? Eh ben, il reste la relation à la personnalité. Est-il ou non sympathique ? C'est ça la pipolisation.
Mais ça, c'est pas très nouveau. Je sais plus si c'est dans votre ouvrage que un de vos ouvrages.
J'ai pas affirmé que c'était nouveau.
Non, bien sûr. Mais Quintus Cicéron, frère de Cicéron, consul de Rome, qui est considéré peut-être comme le premier à avoir élaboré un manuel pour les campagnes électorales et qui donne notamment ce conseil à son frère qui fait campagne justement pour devenir consul. Mets-toi bien dans l'esprit qu'il va te falloir faire semblant d'accomplir avec naturel des choses qui ne sont pas dans ta nature. Déjà, c'est ce souci de la proximité et du naturel, même si c'est un naturel factice. Voilà, ça fait partie de la communication politique.
Qui passe par la flatterie. La différence, c'est que à l'époque romaine, on parlait à une personne, à 10 personnes, à 100 personnes. Là, on parle à des millions de personnes.
Ouais, la télévision était balbutiante du temps de Cicéron.
Un peu quand même.
C'était un petit peu moins développé. Daniel Simonet.
Non, mais je pense qu'on arrive par ailleurs dans une autre période où c'est plus tant la télévision et ça va être aussi les vidéos sur les réseaux sociaux aussi. Donc, il va falloir que les femmes et les hommes politiques aussi assument que ça ne passe pas que par là. Je pense que de toute façon, si on n'est pas sincère, au bout d'un moment, ça se voit. Ça se voit. Il suffit pas d'apparaître pour sympathique, les gens finissent par savoir quel est votre rapport aux autres. Et là, et l'articulation qu'il y a entre le combat que vous menez et le projet que vous portez et comment vous l'incarnez. Ce qui me semble important, c'est de se dire que pour convaincre, il faut aussi redonner du sentiment, redonner de la compétence dans l'ensemble des citoyens, dans la compréhension de ce qu'on a à leur proposer. Je sais que vous avez beaucoup travaillé, puisque vous avez fait une histoire de la langue de bois, je pense que c'est important, tout ce qui est la novlangue, elle sert aussi à un moment donné à affadir, mais aussi à rendre un projet politique totalement technocrate, sur lequel le citoyen n'a pas de prise. Je souhaite, moi, qu'on procède totalement de l'inverse. Il faut réhabiliter la souveraineté du peuple et donc redonner du sens au combat qu'on souhaite porter.
Alors, je vais vous faire écouter un extrait, Serge Moitié et Christian Delporte, d'une vidéo qu'a posté Daniel Simonet sur son compte. Bah, vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous êtes dans votre lit, vous filmez un petit matin, un dimanche matin, a priori, et vous vous adressez à la maire de Paris.
Vidéo spéciale pour Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Alors bonjour Anne, je ne sais pas ce que vous allez faire le dimanche matin, mais moi, j'adore faire la grasse matinée. Il y a plein de femmes qui peuvent pas faire la grasse matinée parce qu'elles sont obligées de travailler d'ores et déjà. Je pense notamment, par exemple, aux infirmières, aux boulangères, à toutes celles qui travaillent sur les marchés, je pense aux policières et plein d'autres. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous la faire, là ? Vous nous la jouez à l'envers. L'an dernier, vous étiez opposé à la loi Macron et là, aujourd'hui, vous voulez nous imposer l'ouverture de tous les commerces 12 dimanches par an. Le dimanche, eh bien, on doit pouvoir faire la grasse mat, se reposer et puis se retrouver en famille, entre amis, aller se balader dehors, et pourquoi pas aller voir une exposition, aller au théâtre, voilà, la culture le dimanche, mais pas le consumérisme.
Vous en pensez quoi, Christian Delporte ?
Il
faudrait voir l'image, hein,
bien sûr.
On peut imaginer.
Évidemment, derrière l'humour, il y a un message politique fort. Et l'humour, c'est un bon support également pour séduire et ensuite convaincre, qui est pratiqué par les hommes politiques depuis très longtemps, y compris par ceux qui paraissaient le plus austères, comme le général de Gaulle.
Serge Moati, finalement, les politiques ont plus besoin de gens comme vous qui les aident à se mettre en scène.
Je crois qu'ils ont vraiment besoin, si j'écoute bien cet extrait.
Pourquoi ? Dites-nous. Quel conseil vous lui auriez donné ? Alors, il faut voir aussi à l'image.
On ne parle pas comme ça quand on est au lit et que c'est la grasse mat le dimanche. Tout bêtement, enfin, je veux dire, non, mais elle le sait.
Parce que je t'ai bien réveillée,
déjà. Mais oui, elle est hyper réveillée, elle pense aux pâtissières, aux boulangères, aux infirmières, à tout son électorat, etc. Enfin, elle est très, très, très réveillée. Donc, déjà, il aurait fallu être plus allongé, n'est-ce pas ? Et peut-être se mettre dans la situation où, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Etc. Là, elle sait tout ce qu'elle doit dire et faire. Donc non, enfin c'est drôle, enfin j'ai pas vu, hein, pardon, je regrette, mais c'est un message politique clair au lit.
Daniel Simonet.
Ah moi j'ai fait après l'intervention en séance du Conseil de Paris, je suis allée au-delà, j'ai dit mais écoutez, je vous souhaite le dimanche de faire l'amour, pas les commerces. et c'est vrai que ça a généré un brouhaha. Ouais. Ouh là là, parler d'amour. Je pense que ce que j'ai voulu faire dans cette petite vidéo, c'est voilà, susciter la curiosité depuis quand on se filme dans son lit. Après, je reconnais que le discours est assez différent de la voix que je peux avoir au réveil, évidemment. Ah
oui. Mais est-ce que ça peut être, par exemple, une façon aussi de sortir d'un univers extrêmement codifié, qui est celui de la télévision aujourd'hui, par exemple?
Moi, depuis que je milite, j'aime bien essayer de chercher de nouvelles façons d'aller vers les gens et de convaincre. J'adore faire des criées dans le métro. Donc, je rentre dans les wagons de métro. Alors, je ne fais pas ça toute seule, hein, je fais ça avec quelques militants. J'ai fait une criée dans le métro, par exemple, pendant la mobilisation contre la loi Travail et son monde, avec des nuits de boutistes. Au moment où Emmanuel Macron lançait son mouvement, on rentrait dans les marches, dans le wagon, et on disait « Nous sommes le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron !» Nous sommes pour la loi El Khomri, la loi travail, c'est la liberté de licencier. Et c'était rigolo parce que les gens avaient bien tout de suite compris que c'était un sketch, à part une petite vieille dame qui était totalement paniquée, énervée. Alors on croyait que c'était parce qu'on faisait du bruit dans le métro. Et puis à la fin du sketch, quand on dévoilait que finalement on disait arrêtez les conneries, venez à la manifestation, notre petite vieille dame tout d'un coup... Oh, vous m'aviez fait peur. Oh, je suis rassurée. J'avais vraiment cru que vous étiez avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a créé une relation, on a créé une expérience dans ce wagon. Il s'est passé quelque chose. Et je pense que même si on n'en a pas dit beaucoup sur la loi travail dans cette petite expérience qui a duré le temps d'une rame de métro, eh bien, les gens ont raconté cela. Et l'humour qu'on y a mis montre justement la confiance qu'on a dans la contestation du système et donne beaucoup plus envie de suivre celles et ceux qui manient l'humour.
Est-ce que vous y voyez, Christian Delporte, une forme ou des formes de désacralisation de la politique ?
Ça y participe quand même d'une certaine façon, même si vous vous adressez, je dirais, à une partie des gens qui pensent déjà comme vous.
Dans le métro, non.
Non, pas dans le métro. Je parlais de votre spectacle.
Dans la vidéo, vu mes commentaires, j'en ai beaucoup qui souvent terminent les commentaires en disant « Bon, alors, la dernière phrase que vous avez faite sur Jean-Luc Mélenchon, là, je suis pas d'accord. » Et ça me plaît, parce que du coup, je me dis que les 100 000 personnes qui ont vu la vidéo, c'est pas simplement les convaincus.
Christian Delporte.
Mais néanmoins, on est dans une période d'hommes politiques ordinaires, d'hommes et de femmes politiques ordinaires, qui essayent de se distinguer d'une certaine manière dans le brouhaha médiatique.
Quand vous dites ordinaires, c'est-à-dire qui veulent se présenter comme des hommes et des femmes politiques ordinaires ou qui le sont vraiment ?
À mon avis, qui le sont vraiment maintenant. Et du coup, bon, c'est ce message finalement, c'est je suis comme vous. Vous pouvez me faire confiance parce que je suis comme vous. Mais ce qu'on attend quand on est électeur, c'est qu'on soit un petit peu plus que vous. Sinon, c'est pas la peine de voter pour vous. Et je trouve qu'il y a quand même un brouillage avec la présence des politiques sur les plateaux de télévision de divertissement, qui n'aident sans doute pas à revaloriser leur image.
Vous, Serge Moati, qui avez suivi tout un tas de campagnes et d'hommes politiques, est-ce que à partir du moment où les personnes que vous suiviez savaient qu'il y avait une caméra qui allait les filmer, il y avait dans leur acceptation de votre présence l'idée de les montrer justement comme ils sont vraiment? Est-ce que ça, c'est ce qu'on vous disait quand on vous disait « bah ok, j'accepte que tu sois là, mais parce que ça va me servir aussi à montrer une autre image de moi ».
J'imagine qu'il devait se dire ça, mais je m'en tape littéralement. Ce qui m'intéressait, moi, c'était le moment de vérité qui allait sortir peut-être. Et je guettais ce moment de vérité. Je mettais les conditions de l'éclosion de la vérité. Et c'est très très important. Qu'est-ce qui fait qu'un type devient de gauche, par exemple ? Qu'est-ce qui fait qu'il croit à ce qu'il dit ? Ou de droite, ou de ce qu'on veut. Hein ? Qu'est-ce qui fait qu'on devient Le Pen ? Qu'est-ce qui fait qu'on devient...
Daniel Simonet.
Non mais vraiment, je suis sérieux là. Et il faut chaque fois essayer de trouver le ressort profond qui fait qu'ils sont... Parce qu'il faut un métier de chien quand même. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui les pousse. Et quand on arrive à sentir ça, ce cœur qui bat, quand on entend battre le cœur des politiques, moi ça, je trouve ça émouvant et fort. Ça passe pas forcément par la comédie, ça peut passer par l'émotion, ça peut passer par les pleurs, ça peut passer par ce qu'on veut. Mais à condition que ce soit vrai, que ce soit pas joué, parce qu'il n'y a rien de qui joue plus mal qu'un mauvais comédien.
Quand vous suivez par exemple Bernard Cazeneuve pendant plusieurs semaines, à quel moment vous trouvez la vérité du personnage, en tout cas de ce qu'il est vraiment, lui, Bernard Cazeneuve.
Ben, c'était pas du tout le même genre de situation. Imaginez, quand il y a les attentats de janvier, on blague pas trop quand même, non ? Vous trouvez pas ? Ou les attentats du Bataclan, ou les trucs comme ça, etc. On joue pas. Donc là, je me contente d'être là, de me faire le plus possible invisible, et de suivre comme je peux, sans qu'on dise où il est. Et tout le monde croyant que j'avais les autorisations et que j'en avais pas. Donc c'est plutôt ça le truc, vous voyez. C'est là, honnêtement, je joue pas à ça dans ces cas-là.
Donc l'idée, c'est que la mise en scène soit la moins visible possible, j'imagine. Ce qui est radicalement différent d'un autre exercice, oui, auquel vous avez participé. Okay. On est en mai 1981.
Ah, vous allez me faire le coup du Panthéon.
Eh oui.
C'est à pied et avec le peuple de Paris qu'il va gravir cette rue qui le conduit au Panthéon. C'est le premier bien de foule du président de la République. C'est aussi la rupture avec les cérémonies officielles de la journée. L'orchestre de Paris, placé sous la direction de Daniel Barenboim, accompagne le président. Regardez.
Alors, vous allez me faire le coup du Panthéon, Serge Boitier. Ben oui, c'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'on l'invite pour parler de politique, on lui rappelle ce souvenir.
Parce que pour moi, c'est un souvenir à la fois émouvant, enfin fort, quoi, et en même temps baroque, parce qu'on ne savait pas du tout où il allait aller. Hein. Il ne connaissait pas le Panthéon non plus, donc c'était très bizarre. On a répété avec Roger Hanin, qui jouait le rôle de Mitterrand.
Alors ça, je trouve ça assez génial, justement. Ouais. C'est-à-dire, vous choisissez un comédien pour faire la doublure d'un homme politique.
Et comment voulez-vous qu'on fasse? Il n'avait pas le temps de venir répéter. Aller à gauche, c'est le caveau de machin.
Vous l'avez perdu,
et puis à droite.
Donné,
et je l'ai perdu totalement. Puis Mitterrand, ravi déjà à l'affection des siens, un peuple de gauche éploré qui venait pour une fois de voter pour un président de gauche, paf, perdu. Ça a duré 10 secondes, une éternité. Je ne sais plus où il était. Je demande à tous les opérateurs, où il est. Ils me font signe qu'ils ne le voient pas, ils ne le voient pas. Moi, on a cru un coup d'État fasciste. Affreux. C'était un vrai cauchemar. Enfin, vous vous rendez compte? Et j'avais peur qu'il revienne, ou alors avec un œil au beurre noir, il serait tombé contre un mur, je ne sais pas quoi. Etc.
Et puis finalement, il est revenu et on le voit entrer dans le Panthéon.
Et la gauche a soupiré. Et de faire, me prenait par le cou et me disait, il était derrière moi en régie, c'était un cauchemar. Nommé ministre de l'Intérieur, il me disait, retrouve-le. Et moi, j'ai dit, j'avais pensé, dis donc. Ouais, je le cherche. Ça tombe bien. Vous voyez, je me voyais promis un avenir dans un goulag social-démocrate.
Finalement, vous êtes toujours là, vous voyez. Ce genre de mise en scène, Christian Delporte, est-ce que ça vous paraît quelque chose d'assez daté, en tout cas qu'on ne pourrait pas refaire aujourd'hui? Imaginons 2017, je ne sais pas qui sera élu président ou présidente de la République, mais il va falloir faire quelque chose d'un peu plus quoi, à la Justin Trudeau, c'est-à-dire montrer qu'on arrive sur les lieux de pouvoir à pied avec sa famille, en serrant des mains tout le long de...
Oui, sans doute. Je dirais que les temps ont changé. Et puis ça dépend beaucoup, finalement, de qui on va élire. Je veux dire, est-ce qu'il aura été porté par une adhésion populaire, comme l'a été Mitterrand en 80,
bien sûr.
Et là c'était possible, ou pas? Et à ce moment-là, si c'est le ou pas, on la jouera sans doute beaucoup plus modeste.
Sobre.
Sobre.
Enfin, je crois. Je sais pas.
Oui, mais, je veux dire, il ne faut pas non plus dénigrer la mise en scène de notre histoire collective. C'est important quand un peuple joue un rôle important et construit son destin. Moi, je reste très marquée et je sais que beaucoup d'hommes et de femmes autour de moi sont marqués par la grande marche du 18 mars 2012 pendant la campagne présidentielle où on était je ne sais combien à prendre la Bastille. C'est quelque chose qui nous a tous marqués, qui nous a tous du coup transformés et qui nous a tous donné confiance en nous-mêmes sur la capacité qu'on pourrait véritablement écrire une page de l'histoire. Alors on ne l'a pas totalement écrite à cette étape-là, on espère l'écrire en 2017, mais c'est important. Donc c'était important aussi comment tous ces manifestants ont construit une belle image, une belle manifestation qui fait qu'ils se re-représentent aussi comment ils sont un peuple qui se fédère. Donc je pense que les rituels qui peuvent être différents à des moments d'histoire, c'est aussi des moments à travers lesquels on se construit. Moi, je respecte cela. Et c'est pas parce que ça a déjà eu lieu, ça s'est déjà fait, qu'il faudrait balayer tout ça, mépriser tout cela. Je pense que... Enfin, moi, je suis très attachée. Les cérémonies du 8 mai 45, les cérémonies devant le mur des fédérés pour célébrer la Commune de Paris sont des choses qui sont importantes, où on se réapproprie notre histoire. Je ne pense pas qu'il faille balayer cela. Et pourtant, ça fait partie d'une théâtralisation, mais qui n'est pas là pour fausser le sens, mais pour nous rappeler le sens. Je pense que toute la question centrale, elle est dans l'intention. Est-ce que l'intention, c'est de faire de la politique spectacle pour divertir du sens, pour éloigner du sens, ou est-ce que c'est une théâtralisation pour ramener sur le sens, créer de l'émotion au service du sens?
Dans votre ouvrage, Christian Delporte, on est presque à la fin de cette émission, une histoire de la séduction politique. J'aimerais, en quelques mots, si vous le pouvez, que vous nous racontiez cette histoire. Ça se passe au Canada. Jonathan Bleu, le Parti Bleu qui a été lancé et qui a été une façon de récupérer finalement les codes de la politique pour montrer en quoi on est aussi dans du marketing.
Je vous laisse. Oui, en fait, c'est l'histoire d'un faux candidat. C'est un faux candidat, mais on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Et il a un programme tout à fait fantaisiste. Il fait parler les médias. Et puis au bout d'un moment, effectivement, on sort la vérité. Ça n'est pas un candidat. Et pourtant, ça a bien occupé le terrain.
Et vous dites finalement, c'était aussi une façon de quoi de montrer presque les déviances ou en tout cas les dérives démocratiques.
C'était effectivement pour caricaturer les formes de communication modernes de l'époque, et c'était pour caricaturer également la course à la démagogie politique.
Voilà, la caricature, c'est pas du tout ce qu'on peut retrouver. Oui, Serge Moati, vous vouliez me dire quelque chose?
Non.
Ah bah je crois que vous voulez.
Ça n'a aucun rapport.
C'est votre dernier ouvrage, peut-être?
Ouais,
vous vouliez qu'on en parle?
Il est sorti aujourd'hui.
Rêve d'Orient, mon musée idéal. J'avais prévu ça pour la fin. Oh. Comme à la fin, vous voyez, on annonce, on parle de l'équipe.
Je me demandais comment on pouvait passer de ça à ça.
Ben, vous voyez.
Très fort.
On est connectés l'un à l'autre.
Un métier.
Voilà. Serge Moati, donc, qui publie Rêve d'Orient, mon musée idéal. Daniel Simonet, j'ai dit que j'allais donner les dates de votre tournée, mini-tournée, pour l'instant. Le 25 novembre, vous serez à Nevers. Le 8 décembre, à Saint-Étienne. Et le 18 décembre, donc, de retour à Paris, au Théâtre Clavel, pour ce spectacle Hubert, Les Salauds et Mes Ovaires, mise en scène par Papy. Bah, il faut y aller.
Il faut y aller.
Mais c'est un spectacle.
Parce que les femmes insoumises ont des ovaires, mais alors.
Spectacle féministe, notamment. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Fanny Richer, Cyril Baer, Sarah Maquet, Isolde Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Pascal Baudin. Demain, nous allons nous intéresser aux sondages, à ceux qui les font et à ceux qui les interprètent.